Radio Kapi.
Plus de 63 000 personnes déplacées sont arrivées au nord de la chefferie de Bouito, rien que pendant la première quinzaine de ce mois de janvier. Beaucoup sont dans des familles d'accueil, encore dans des écoles ou des églises et ont besoin d'aide. Nous parlerons justice avec le début hier à Lubumbashi des audiences en flagrance à la cour d'appel du Haut-Katanga. Trois magistrats de la cour d'appel du Tanganyika et un commerçant sont poursuivis pour corruption dans une affaire de viol. La fondation Konrad Adenauer plaide pour un rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Appel lancé lors de la journée franco-allemande hier à Kinshasa. Il n'y a pas de crise sans issue, affirme son directeur résident. Il en veut pour preuve le traité de l'Elysée qui a mis fin au conflit franco-allemand. Timon Rougeant est notre invité. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu. Plus de 63 000 personnes déplacées ont été accueillies entre le 1er et le 12 de ce mois de janvier sur l'axe Kikuku au Lusoa, au nord de la chefferie de Bouito, dans le territoire de Rutshuru. Dans un rapport publié hier vendredi, les organisations humanitaires locales indiquent que ces déplacés sont répartis dans plus de 12 000 ménages. Ils ont fui des affrontements opposant l'AFC 123 aux miliciens Wazalendo alliés au FRDC dans les territoires de Walikale et de Rutshuru. Autre précision avec vous, Bernard Denyangi.
Selon ce rapport, 63 035 déplacés internes sont arrivés en provenance des groupements de Kisimba et Ikobo dans le territoire de Walikale, ainsi que des groupements Kiondo, Mutanda et Kanyabayonga dans le territoire de Rutshuru. Ils sont arrivés par vagues successives entre le 1er et le 12 janvier, fuyant les combats dans les villages de Kitunda, Mukole, Masiza et Kiandjikiro, entre autres, dans les zones où ils ont trouvé refuge, notamment Kikuku, Kiala, Mirangi, Iobora, Birundule et Lusoa. Les déplacés sont hébergés soit dans des familles d'accueil, soit dans des écoles et des églises. Dans ces structures publiques, ils passent la nuit dans les salles de classe ou les salles de culte, mais doivent quitter les lieux chaque matin afin de permettre la reprise des cours ou les activités religieuses. Les organisations humanitaires locales alertent sur l'insécurité persistante qui empêche pour l'instant toute intervention en leur faveur. Elle souligne que les déplacés ont des besoins urgents en vivres et articles non alimentaires. À noter que ces nouveaux arrivants s'ajoutent à plus de 6701 ménages déjà déplacés entre novembre et décembre 2025 dans la même zone, aggravant davantage la pression humanitaire.
Dans la province du Maniema, la bourgmestre de la commune de Kasuku à Kindu sensibilise les parents à l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil. Marie Fatouma Kalunda affirme que pour l'année 2025, seuls 325 enfants ont été enregistrés. Elle en appelle pour cela une prise de conscience de tous les parents, étant donné que l'acte de naissance constitue une obligation légale. Marie Fatouma Kalunda, bourgmestre de la commune de Kasuku, est au micro de Florence Kizalunga.
La commune Kasuku est une grande commune dans la ville de Kindu, mais durant toute l'année 2025, la commune n'a enregistré que 325 enfants à l'état civil. Nous constatons que les parents n'ont pas cette culture de faire enregistrer leurs enfants à l'état malgré toutes les sensibilisations que nous faisons. Les parents doivent savoir que faire enregistrer son enfant à l'état civil constitue une obligation légale et l'acte de naissance est un droit à tout enfant congolais. Je conseille à tous les parents de faire enregistrer leurs enfants pendant les délais prévus par la loi, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à 90 jours. Si l'enfant n'est pas enregistré, la filiation de paternité n'est pas établie entre l'enfant et les parents et cela a des conséquences néfastes dans la vie de l'enfant. Dès le premier jour jusqu'au 90e jour, repassez avec votre enfant au niveau de la commune, nous allons lui donner un acte de naissance. Ici, les actes de naissance, c'est gratuit. On donne ces documents gratuitement. Venez au niveau de la commune, venez faire enregistrer vos enfants au niveau de la commune.
Parlons justice. D'abord avec le début ce vendredi à Lubumbashi des audiences en procédure de flagrance à la cour d'appel du Haut-Katanga qui oppose le ministère public à trois magistrats de la cour d'appel du Tanganyika et un commerçant. Ils sont poursuivis pour corruption dans une affaire de tentative de viol avec violence. Tiens donc, le président de la cour de cassation et le premier avocat général de la République venu de Kinshasa ont assisté à l'audience de ce vendredi. Le point avec Paul Amunaka.
La cour a commencé l'instruction du dossier par l'identification des quatre prévenus. Par après, chacun des prévenus a été appelé à la barre pour donner sa version des faits. Après l'instruction du dossier et les débats, le ministère public a requis 3 ans de servitude pénale principale pour les prévenus magistrats et 2 ans pour les commerçants. Pour rappel, En juillet 2025 à Kalemi, une femme a accusé en justice le commerçant Joseph Kafumbi Kiwele de tentative de viol. Le tribunal de grande instance de Kalemi a ouvert le dossier et après il a acquitté le commerçant. Mécontente de ce verdict au premier degré, la femme est allée en appel à la cour d'appel du Tanganyika. Le 19 décembre dernier, la cour d'appel a rendu son arrêt. Elle a condamné le commerçant Patrick Kafumbi à 6 mois d'assignation à résidence surveillée et à 10 000 dollars américains d'amende. La peine prononcée par la cour d'appel du Tanganyika n'a pas été suffisante au regard de la loi dans une affaire de tentative de viol, commente un magistrat que nous avons contacté. L'audience a été suspendue et renvoyée à lundi prochain. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, ce sont 5 agents de la police nationale congolaise qui sont poursuivis pour meurtre ainsi que coups et blessures volontaires par le tribunal militaire de garnison de Mbujimayi et Chilenge. La deuxième audience en flagrance a eu lieu hier vendredi dans la cour du commissariat provincial de la police nationale. En quoi a-t-elle consisté, Estanda Lafina?
L'audience de ce vendredi a été consacrée à la continuité de l'instruction ainsi qu'à l'audition des 2 témoins et des renseignants cités par le prévenu. Ces agents de police entendus à la barre ont été formellement reconnus par l'épouse de la victime après leur forfait. À l'audience de ce vendredi, un 5e prévenu a été identifié, pourtant venu assister au déroulement du procès. À la prochaine audience, le tribunal militaire va effectuer une descente lundi prochain au chevet de la victime hospitalisée ainsi qu'au lieu du crime afin de compléter les éléments de l'enquête. Pour la petite histoire, les faits remontent du 9 janvier dernier. Des policiers en patrouille ont fait irruption dans la résidence de l'un de leurs collègues situé au quartier Pemkao dans la commune de Bipemba. Ils l'ont grièvement blessé par balle aux jambes. Sa fillette, âgée de moins de 10 ans, a été atteinte à la poitrine et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Les sources proches du dossier affirment que les assaillants ont emporté de l'argent et plusieurs biens de valeur, abandonnant sur leur passage une arme. Pour de nombreux observateurs, la tenue de cette audience en flagrance au sein même du commissariat provincial de la PNC constitue un message clair. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Boucle cette page judiciaire dans la province du Tanganyika où après 2 semaines de détention à Moba, le journaliste Isidore Kachouloui est bénéficié d'une liberté provisoire. Sa relaxation intervient après l'implication de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Tanganyika et de l'ONG Journaliste en danger, JED. Pour rappel, Isidore Kachouloui a été arrêté sur ordre du Conseil local de sécurité de Moba. Il a été accusé d'avoir diffusé un reportage en citant un militaire des FARDC comme ayant blessé par balle une femme. Pour les autorités militaires locales, le journaliste a relayé de fausses informations au sans preuve. Le gouverneur de la province de Sud-Kivu est rentré depuis hier vendredi à Uvira, chef-lieu provisoire de la province, et cela 5 jours après le retrait des rebelles de cette ville. Jean-Jacques Porossi provient de Bujumbura, où il avait trouvé refuge après la prise de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23 le 10 décembre dernier. Dans son message au public venu l'accueillir, le gouverneur a annoncé que la frontière entre le Burundi et la RDC sera rouverte prochainement sans préciser les dates et que cette reprise du trafic va faciliter le retour des milliers de Congolais qui sont dans les camps de réfugiés au Burundi voisin. Jean-Jacques pour aussi apprécier l'unité, la vigilance et le vivre ensemble entre les communautés. À Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a échangé mercredi avec les confessions religieuses de la République démocratique du Congo sur la situation sociopolitique du pays dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans la partie Est. Au centre des discussions, les pistes pour renforcer la paix, la cohésion nationale et la stabilité des institutions. C'est ce qu'indique une dépêche de l'Assemblée nationale publiée ce vendredi. Des détails dans cet élément de Kassam Zati rendu par Jean Gandou.
Les responsables religieux conduits par leur président, l'archevêque Évariste Ejibayamapia, ont salué les efforts des institutions congolaises en faveur du retour de la paix, notamment dans les provinces de l'Est du pays. Ils ont insisté sur la nécessité d'une implication collective, associant autorités politiques, leaders religieux et forces vives de la nation. Les confessions religieuses ont à cette occasion présenté une initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC, une démarche qu'elles considèrent comme un complément aux efforts efforts déjà engagés pour promouvoir le vivre ensemble et l'unité nationale. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a encouragé cette initiative qu'il a qualifiée de contribution importante à la recherche de la paix. Aimé Bojisangara a réaffirmé sa détermination à accompagner les actions du président de la République et du gouvernement en vue du rétablissement de l'autorité de l'État et de la préservation de l'intégrité territoriale. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, la paix durable en RDC passe par une synergie d'action entre les institutions, les leaders religieux et l'ensemble de la société congolaise.
Retour au Nord Kivu, au moins 5 centres de santé et 2 postes de santé de la zone de santé de Biena ont fermé leurs portes dans le groupement de Mouigné. Nous sommes au sud du territoire de Lubero. Des attaques répétées des ADF ont contraint le personnel soignant et la population à quitter la zone, forçant la fermeture des structures sanitaires. Selon Jérémy Mouindo Omudekwa, infirmier responsable de chef de centre de santé de Ngoubi, 21 civils ont été tués en l'espace de 10 jours dans la région. Et pour lui, la réouverture de ces centres dépendra du retour de la paix et de la sécurité. Il en parle au téléphone avec Marc Marofimbo.
Nous sommes parvenus à fermer nos structures sanitaires à partir de Mahusa, Mandelia, Kirea, Ipendi, Musengi, Masoya, Ngoubi, parce que nos vies sont en danger, tellement que la population a déjà vidé la zone et les gens n'y sont plus. Or, les hôpitaux sont opérationnels là où habite la population. Nous avons jugé bon de fermer nos portes, raison pour laquelle nos structures sanitaires sont fermées. Nous ne pouvons pas nous hasarder à mettre nos vies en danger pendant que le gouvernement n'en tient pas rigueur pour le rétablissement de la sécurité. Nous avons besoin que notre sécurité soit bien assurée et si notre sécurité sera bien assurée, nous sommes prêts à revenir et rouvrir les portes de nos structures sanitaires comme d'habitude et si la population y est retournée, rien ne nous empêchera d'y retourner au service.
Notez que des sources militaires annoncent le déploiement des forces conjointes des armées congolaises, FARDC, ougandaises, UPDF, dans les villages de Mouigné pour protéger la population. La mutuelle de santé des enseignants est désormais une réalité dans la ville de Guadolité, chef-lieu du Nord Ubangi. La cérémonie officielle de lancement de ces activités a été présidée jeudi par le vice-gouverneur de la province, Odan Joseph Bongabo. Il l'a fait en présence de plusieurs autorités politico-administratives, éducatives ainsi que des enseignants. L'autorité provinciale a salué l'implantation de cette mutuelle dans sa province et pour lui, elle contribuera à améliorer les conditions d'accès aux soins médicaux pour les enseignants du Nord Ubangi. Assez Ibiatayoro nous en dit plus.
Les enseignants de la ville de Guadolite se sont dit heureux d'accueillir pour la première fois la délégation de la mutuelle de santé des enseignants venus de Kinshasa pour procéder à l'ouverture officielle de cette structure au chef-lieu du Nord Ubangi. Selon la révérende sœur Marie-Faustine Beleko, secrétaire exécutif national de la MSP, cette mutuelle fonctionne sur base d'un régime contributif des enseignants, ce qui permettra à ces derniers de bénéficier des soins de santé dans de bonnes conditions. Dans cette optique, le vice-gouverneur a encouragé les enseignants à régulariser leur situation matrimoniale afin de remplir les conditions d'éligibilité à la mutuelle.
Soyez honnêtes dans vos déclarations. J'ose croire aussi que les femmes des enseignants seront peut-être les plus heureuses parce que, enfin, ceux d'entre les enseignants qui n'ont jamais voulu assumer leur statut matrimonial vont se voir obligés de régulariser leur situation.
Grande a été la satisfaction des enseignants qui affirment être honorés par la concrétisation de cette mutuelle à laquelle ils contribuaient déjà par le versement de 5000 francs congolais depuis longtemps. Toutefois, certains d'entre eux sollicitent une mesure de clémence concernant la régularisation de leur mariage.
La ville de Kananga, dans le Kasaï central, sera bientôt dotée d'une université moderne. Il s'agit de l'université de Kananga, construite au village Katambay et dont les travaux sont déjà à leur terme. Ce nouveau campus a une capacité d'accueil de 3200 étudiants. Ces derniers pourront ainsi étudier dans de bonnes conditions. André Katendengalamouloumi nous présente cet ouvrage.
Ce nouveau campus comprend 16 auditoires répartis dans 2 bâtiments pouvant accueillir au total 3200 étudiants, soit 200 étudiants par auditoire. Il dispose également de 2 bâtiments administratifs et de 3 hommes pour étudiants, dont 2 réservés aux garçons et 1 aux filles, chacun offrant une capacité d'hébergement de 200 étudiants. Le campus est aussi doté d'une bibliothèque, de 2 ascenseurs, d'une cafétéria, des laboratoires et des salles machines. À noter que l'UNICAN compte 9 facultés, la médecine, le droit, les sciences économiques et de gestion, les sciences sociales, l'informatique, l'agronomie, l'école de santé publique, l'école supérieure des arts et métiers, ainsi que la polytechnique. Ces nouveaux sites viennent renforcer et améliorer la formation des étudiants et leur évitera de faire des déplacements pour aller dans d'autres universités se trouvant en dehors de la province. Ces déplacements impliquent des moyens supplémentaires à charge de parents. Cette nouvelle université vient donc rapprocher les étudiants de ces hauts lieux du savoir. Kananga, André Katindengala Moulmé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Mozambique, les inondations ont provoqué une situation aussi rare que dangereuse, rapporte AfricaNews.net. Des crocodiles ont été poussés jusque dans les villes submergées. Les autorités confirment au moins 3 morts causées par ces animaux dans un contexte de crue exceptionnelle.
L'invité.
La fondation Konrad Adenauer plaide pour un rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Son directeur résident Timo Roujan a lancé cet appel lors de la journée franco-allemande organisée jeudi à Kinshasa. Il estime qu'il n'y a pas de crise sans issue et cite en exemple le conflit franco-allemand résolu grâce au traité de l'Élysée. Pour Timo Roujan, la RDC et le Rwanda peuvent développer des projets communs dans le cadre socio-économique au bénéfice des populations de la région des Grands Lacs. Il répond aux questions de Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Timo Roujan. Pourquoi avoir organisé cette journée franco-allemande sur les traités d'Élysée?
Cette journée, je pense qu'elle est de grande actualité aussi pour la situation ici en RDC. Nous parlons d'une longue haine que la France et l'Allemagne ont vécue, des guerres terribles avec des millions de morts. Et à un certain moment, les Allemands et les Français ont choisi le chemin de la paix et de la prospérité. Et c'est pour ça qu'on a organisé cet événement pour parler quels sont des éléments à prendre. Qu'est-ce que le Congo et aussi le Rwanda peuvent apprendre de l'expérience franco-allemande et où est-ce que nous allons dans un futur? Est-ce qu'on peut bâtir un chemin ensemble ou est-ce que ça sera une relation de rapace où les uns ou les autres essayent de piquer et d'affaiblir l'autre?
Alors qu'est-ce qu'il faut pour les rapprochements politiques entre Kinshasa et Kigali?
Bon, je pense qu'il faut un projet commun, une vision comment notre région des Grands Lacs veut évoluer. Et surtout, il faut aussi que les citoyens, tous les citoyens aussi propagent une vision de la paix et un grand besoin de paix et exercent une pression sur leur gouvernement. Parce que la plupart des hommes et des femmes, des enfants dans le monde entier veulent vivre en paix et dans la prospérité. Et cette prospérité des Grands Lacs n'aura jamais lieu le temps que les pays des Grands Lacs seront divisés, seront en confrontation les uns et les autres.
Que répondez-vous à ceux qui estiment que tant que les tireurs de ficelles seront là, ça serait difficile de voir les Rwandais et la RDC se réconcilier?
Je pense que comme dans tout accord ou dans comme toute solution à un conflit, effectivement il y a des éléments qui veulent entretenir des conflits parce qu'ils en profitent. Nous avons vu aussi que pendant le nazisme allemand, l'entrepreneuriat allemand était à une certaine partie pour le nazisme, hein, parce que la guerre peut toujours faire tourner une certaine partie de l'économie. Mais l'intérêt général aussi des commerçants, des entrepreneurs et la paix. Et chacun sait à travers l'exemple européen que la paix est le seul moyen d'arriver à la prospérité. Tous ceux qui pensent que de voler quelques pépites d'or dans un autre pays fera leur grand futur, ils se trompent. La paix est dans la coopération et il faut espérer que les populations comprennent ceci et qu'ils exercent une pression considérable sur leur gouvernement pour que le gouvernement aussi prenne ce chemin de la prospérité, du dialogue et de la réconciliation.
Quelles sont les grandes lignes du traité de l'Élysée?
Bon, les grandes lignes du traité de l'Élysée étaient un traité d'amitié franco-allemand, ça veut dire avec des échanges aussi scolaires par exemple, où des villes ont été jumelées. Ça veut dire il faut s'imaginer des citoyens d'une ville française aller en visite en Allemagne, des Allemands aller en France pour qu'on se connaisse. Mais souvent on a peur aussi de ce qui nous est étrange, c'est pour ça qu'il est véritablement important qu'on connaisse l'un et l'autre ses besoins et qu'on voit de l'autre côté de la frontière, c'est un être humain avec souvent des besoins vraisemblablement à ses propres besoins. Et c'est bien pour cela qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut véritablement que les choses cessent.
Alors si vous vous demandez d'adresser un petit message aux Congolais et aux Rwandais. Que diriez-vous?
Je dirais que ne vous laissez pas tromper par tous ceux qui sèment la haine, par les fausses informations. Cherchez en l'un et l'autre l'être humain que vous êtes vous-même et essayez d'exercer et de faire de votre quotidien le mieux pour que la confiance et la réconciliation puissent régner un jour. Je sais que c'est difficile en comptant tous les crimes qui ont été commis dans cette guerre, mais une guerre interminable n'est pas la solution. C'est pour ça que je vous souhaite tous courage et surtout de surmonter ces différences, de véritablement pouvoir établir une région des Grands Lacs de la paix, de la prospérité et de la sécurité pour tous ses concitoyens.
Monsieur Timo Rougeant, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à vous.
Timo Rougeant, directeur résident de la Fondation Konrad Adenauer, qui s'exprimait donc, c'était jeudi, à l'occasion de la journée franco-allemande à Kinshasa. Merci à vous qui avez suivi ce journal préparé par Jean Gandou, mis en onde par Alain Groy, avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi à vous.